Chapitre 5. Les grands cercles à Paris ne sont pas tous, comme les grands clubs anglais, propriétaires de l'immeuble qu'ils occupent, mais ils sont presque tous situés dans le quartier de la Madeleine, qui correspond à peu près au West End de Londres. Beaucoup ont des fenêtres sur le boulevard. Quelques-uns ont un balcon. L'ancien cercle impérial avait même une terrasse qui dominait la place de la Concorde. Terrasses et balcons sont fréquentés par les clubmen à certaines heures pendant la belle saison. Ces messieurs s'y montrent volontiers à la fin d'une chaude journée de printemps pour prendre l'air et aussi un peu pour se faire voir, quand le cercle est de ceux où on n'est admis que très difficilement. Lorsqu'on fait partie de l'union ou du jockey, on n'est pas fâché d'exciter l'admiration et l'envie de certains passants qui n'y seront jamais reçus, en dépit de leurs millions, mais qui donneraient de jolies sommes pour avoir le droit de s'exhiber sur ce perchoir privilégié. Après le Grand Prix, on n'y voit plus personne, mais au mois de mai, avant et après l'heure du dîner, ce ne sont que fumeurs accoudés sur la balustrade, et on y échange de joyeux propos, agrémentés de quelques médisances. Le lendemain du jour où Paul Cormier s'était fourvoyé dans le cabinet du juge d'instruction, les gentilshommes qu'il avait rencontrés le dimanche soir à la closerie des Lilas s'étaient établis sur le balcon de leur club pour causer au frais. Ils étaient trois, comme les mousquetaires d'Alexandre Dumas, trois inséparables, le vicomte de Servon, le comte de Carole et le capitaine Henri de Baffé. Tous les trois bien posés, bien apparentés et suffisamment riches pour faire bonne figure à Paris. Ils ne devisaient pas de faits de guerre et d'amour, comme la Mole et Coconnas dans un autre roman du même Dumas. Non, ils parlaient du derby anglais qu'on venait de courir à Epsom, des derniers vainqueurs de Chantilly et de la grosse partie où Servon ne faisait que perdre tous les soirs. Cette causerie à bâton rompu avait l'air de les intéresser, car elle n'en languissait pas, mais au fond, ils s'ennuyaient ferme, et chacun d'eux se demandait à part soi ce qu'il allait faire de sa soirée quand il aurait dîné au club. Grave question à résoudre, et en attendant qu'elle fût tranchée, il brillait à qui mieux. « Oh, décidément, Paris est assommant, » dit Monsieur de Carole. « Toujours le cirque, le jardin de Paris, jamais rien de neuf. »« Il vous faut du nouveau, » interrompit le vicomte de Servon. « Je vais vous en servir. Écoutez ce qu'il m'advint hier et dites-moi s'il vous est jamais rien arrivé de pareil. Moi, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. »« Quoi donc ?» demandèrent à la fois les deux amis du vicomte. « Ben, monsieur !» qui a gagné 8000 francs au baccarat et qui refuse de les recevoir. Oh, c'est rare, en effet, dit le capitaine Henri de Baffé. Mais ça prouve tout bonnement que ce monsieur n'est pas à court d'argent ou que ce monsieur est un impertinent. Voici ce qui s'est passé. Avant-hier dimanche, dans une maison où je vais quelquefois prendre une tasse de thé, parce qu'on y rencontre de jolies femmes, je m'avise de proposer un bac, entre hommes, bien entendu. Je taille une banque, je saute de 400 louis que j'avais sur moi, et comme la partie finissait, je les joue quitte ou double, à rouge ou noir. Et tu les perds, naturellement. Je ne fais que ça depuis un mois. Et si mon histoire s'arrêtait là, je ne vous la raconterais pas. Mais savez-vous de qui je suis resté le débiteur ? « Oh, dis-le-nous tout de suite, au lieu de prendre des temps comme un acteur en scène. Du marquis de Ganges. Ah, celui que tu nous as présenté hier à Bullier. Ça m'étonne pas. Il a l'air d'un vénard, ce marquis. Et sa femme est si jolie que sa veine s'explique peut-être. Ben oui, ce qui ne s'explique pas, c'est que hier, ah, les dettes de jeu se paient dans les 24 heures. J'étais en règle puisque la partie ne s'était terminée que la veille à 7 heures. Donc, Hier, j'envoie mon valet de chambre, porté, avenue Montaigne 22, les 8 billets de 1 000 francs, sous enveloppe à l'adresse de monsieur de Ganges. Et ce monsieur n'a pas voulu les prendre? Mon domestique ne l'a pas vu. Il a eu affaire à une espèce de majordome qui lui a répondu que monsieur le marquis n'était pas à Paris. Mais je l'y avais vu la veille, et vous l'y aviez vu comme moi. Ah, il est peut-être un incognito, un seigneur qui passe sa soirée à Bullier. J'ai eu la même idée que toi, mais mon valet de chambre a voulu laisser la lettre. Le majordome est allé consulter madame qui était à la maison, elle, et qui a fait dire qu'elle ne recevait pas les lettres adressées à son mari. Ben, je comprends ça. C'est pour que le mari ne reçoive pas celle qu'on lui adresse à elle. Bref, François a dû me rapporter la mienne avec les billets de 1 000 que j'y avais insérés. Ben, tu en seras quitte pour les réexpédier à ton insaisissable créancier par la poste en chargeant le paquet. C'est un procédé dont on n'use guère pour s'acquitter d'une dette de jeu, mais quand on a que ce moyen-là. Non, j'irai moi-même. Il y a là quelque chose qui m'intrigue, et je veux en avoir le cœur net. Si je ne trouve pas le marquis, je trouverai la marquise et j'aurai une explication avec elle. Ah bon, tu veux te profiter de l'occasion pour te pousser dans son intimité. Tu espères qu'elle se plaindra à toi de la conduite de son mari et qu'elle t'autorisera à la consoler. Dit en riant le capitaine. Qu'est-ce que c'est au fond que ces gens-là? Demanda monsieur de Carol. Ganges, c'est un nom du Languedoc, je crois. Oui, un nom très ancien. Et la marquise appartient à une vieille famille de ce pays-là. Bonne noblesse de robe, m'a-t-on dit. Vous ne le connaissez pas autrement. Il n'habitait pas Paris il y a quelques années, depuis que la marquise y a acheté un hôtel. Elle a très peu vu le monde. Et le marquis n'avait fait que voyager, à ce qu'il paraît, pour organiser à l'étranger de grandes affaires financières. C'est drôle. Il n'a pas du tout le physique de l'emploi. Je l'ai à peine entrevu à cette causerie des Lilas, mais avant que tu l'aies nommé, je le prenais pour un étudiant. Il a l'air si jeune. Quel âge a donc sa femme? Oh, ma foi, mon cher, je n'en sais rien et je n'ai pas l'intention de le lui demander. Je me contenterai de lui parler de son mari et je saurai ce qu'elle en pense. Je verrai aussi cette excellente baronne d'Ozulé qui est très bien avec elle. Mais où a-t-elle pris sa baronnie, celle-là? Demanda monsieur de Carol, qui se piquait de connaître toute la noblesse française. Oh, elle ne dépend pas des croisades. Son mari était le fils d'un général du Premier Empire. Mais elle reçoit très bonne compagnie, et c'est une femme sûre. On peut se rapporter à elle, et elle ne me refusera pas de me renseigner sur monsieur de Ganges. Mais je tiens à m'adresser d'abord à la marquise elle-même, et je vais pousser tout à l'heure jusqu'à l'avenue Montaigne. Ah, tu feras bien de te dépêcher si tu tiens à ne pas tomber chez elle à l'heure du dîner. Ben, j'y tiens, au contraire. Car je suppose qu'elle ne dîne pas tous les jours sans son mari, et s'il est là, il faudra bien qu'il me reçoive. Quand j'aurai vu sur quel pied ils vivent ensemble, je saurai à quoi m'en tenir sur bien des choses. Il doit être fort riche, puisqu'il est à la tête de grandes entreprises dans je ne sais quel pays. Ce serait une bonne recrue pour la grosse partie. Tu devrais le présenter au club. J'attendrai qu'il me demande d'être un de ses parrains, et je ne lui en servirai qu'à bon escient, lorsque je connaîtrai à fond sa biographie, ses antécédents, comme on dit au palais de justice. Tu n'auras pas tort, le marquisat ne fait pas le marquis, et on a vu des gens entrer dans la poule à un autre. Bon, je crois que ce n'est pas le cas, mais il vaut toujours mieux prendre ses précautions. J'imagine d'ailleurs que si M. de Ganges se présentait, il courait grand risque d'être blackboulé. Pourquoi donc? Il est dans les meilleures conditions pour être admis, puisque personne ne le connaît. On n'aura rien à dire contre lui. Oh, qui sait? Mais je doute qu'il songe à être des nôtres. Et peu importe qu'il en soit ou non, ce qui me préoccupe pour le moment, c'est de lui payer ce que je lui dois, et il est temps que je me dirige vers l'avenue Montaigne. À pied? Oui, j'éprouve le besoin de marcher, et ce n'est pas si loin, l'hôtel de la marquise. J'espère qu'elle y recevra maintenant que son mari est rentré à Paris. Elle est jolie, hein? Demanda Henri de Baffet. Ravissante, mon cher adorable, blonde comme les blés, avec les yeux et le teint d'une Andalouse de Séville. Tu me ferais inviter chez elle, interrompit gaiement le capitaine. Oh, je dis pas non, mais nous n'en sommes pas là. Oh, s'écria tout à coup le comte de Carolles, un revenant. Ben, où ça, de qui parles-tu? Là, sur le trottoir? Cet homme qui regarde le balcon du club, vous ne le reconnaissez pas, vous autres? Ma foi, non. Mais il vous a pourtant prêté plus d'une fois de l'argent à tous les deux. Dans le temps, vous alliez ponter au cercle des moucherons où il y avait une si belle partie. Oui, il me semble en effet que j'ai déjà vu cette tête-là, murmura le vicomte de Servon. Mais c'est l'ancien garçon du jeu du cercle des moucherons, parbleu, dit Monsieur de Carolles. Oh, je m'étonne que tu ne l'aies pas reconnu tout de suite. Oh, si tu t'imagines que je fais attention à la figure de ces gens-là, il y a beau temps que j'ai oublié la sienne. Oh, j'ai plus de mémoire que toi. Car je me rappelle même son nom. Oh, il est vrai qu'il a un de ces noms qu'on retient parce qu'il sent ridicule. Brunachon. Pourquoi pas? Patachon, comme dans les deux aveugles d'Offenbach, gouraya le capitaine. Ah oui, je me souviens maintenant, dit Servon. Il prêtait au DKV, oh, à de jolis intérêts. 1 louis par jour pour 50 louis qu'il avançait. Oh, il a dû faire une jolie fortune. Bon, on ne le dirait pas à sa tenue. Et ça s'explique, on l'a chassé des moucherons. À la suite d'une très vilaine histoire. Bon, j'y suis, l'affaire des cartes marquées à coups d'ongles. Oh, il a été fortement soupçonné de les avoir introduites. Et si on a étouffé l'affaire, c'est qu'on craignait qu'il ne compromît des membres du cercle. Oh, il avait certainement des complices parmi les joueurs, puisqu'il ne pouvait pas jouer lui-même. On s'est contenté de le renvoyer, et Dieu sait de quoi il a vécu depuis qu'on l'a mis à la porte. Ben, le chantage, très probablement. Il avait déjà essayé d'en faire au moment où le scandale éclata. Oh, ça ne paraît pas lui avoir réussi. Vas-tu pas le plaindre? Non, mais je suis sûr qu'on le regrette au moucheron. C'était si commode de trouver immédiatement un billet de 1 000 quand on était à sec. Je me rappelle qu'une fois, après avoir pris une culotte énorme, je me suis refait séance tenante avec 50 louis qu'il m'a prêtés. Oui, mais à 100%. Non, à 50% par nuit. Je lui ai rendu 1 500 francs avant d'aller me coucher. Ben, il a gardé un bon souvenir de toi, c'est pour ça qu'il s'est arrêté à te contempler. Il espère que tu vas descendre pour lui faire l'aumône en mémoire de ses bons procédés. Ben, tu vois bien qu'il s'en va. Ah oui, le voilà qui file vers la Madeleine. Il va probablement faire un tour aux Champs-Élysées dans l'espoir d'y rencontrer quelque ancien client comme toi qui aura le louis facile. Ma foi, je ne le lui refuserais pas s'il me le demandait, le louis. Dis donc, Servon, s'écria le capitaine, si tu tiens à l'obliger, tu pourrais le charger de te renseigner sur le marquis des Ganges. Brunachon ferait aussi bien de l'espionnage que du chantage. Mais pour qui me prends-tu? Oh, je te prends pour un amoureux, et quand on est amoureux, on n'y regarde pas de si près. La marquise vaut bien qu'on emploie tous les moyens pour savoir au juste à quoi s'en tenir sur elle et sur son mari. Retour de l'Inde ou de Turquie, puisque le bruit court qu'il a triplé sa fortune dans les états du sultan. Oh, tu es fou, il n'y a pas moyen de causer sérieusement avec toi. J'en ai assez, je m'en vais. Chez elle, ah, bonne chance, mon cher. Carole et moi, nous allons faire un Rubicon à 100 sous le point. Avec bien du malheur, le perdant y sera d'un millier de points. Ce sera peut-être moins cher que de courir après la marquise. Servon haussa les épaules et entra dans le salon pour sortir du club. Ouvre l'œil, si tu tiens à ne pas rencontrer Brunachon, lui cria Henri de Baffet avant qu'il fût hors de vue. Il exagérait, ce capitaine, en disant que son ami était amoureux de Madame de Ganges. Le vicomte la trouvait charmante et ne demandait qu'à s'assurer ses entrées chez elle, mais dans ce désir de rapprochement, il y avait autant de curiosité que de passion. Il voulait surtout se renseigner sur le mari qui lui avait gagné son argent et qui commençait presque à lui paraître suspect. Il espérait y parvenir en s'expliquant avec la femme qu'il comptait bien trouver chez elle, et s'il n'y réussissait pas, il se sentait capable de recourir à d'autres procédés en dépit des protestations qu'il venait de formuler énergiquement. Il s'en allait donc au pas accéléré, en se demandant si la marquise consentirait à le recevoir et quel parti il pourrait tirer de cette première visite. Il lui faudrait beaucoup d'adresse et de tact, mais l'habitude qu'il avait du monde lui permettait de tenter l'aventure avec de grandes chances de succès. La journée était superbe et c'était l'heure où on revient du bois. La grande avenue des Champs-Élysées regorgeait de beaux équipages et les promeneurs élégants encombraient les deux allées qui bordent la chaussée à droite et à gauche. Le vicomte, ennuyé d'être coudoyé, obliqua vers le palais de l'industrie, dont les abords étaient moins encombrés. Ce chemin d'ailleurs était le plus court pour gagner l'avenue Montaigne, et il lui tardait d'arriver chez Madame de Ganges. Il allait droit devant lui, sans se retourner et sans regarder personne, préoccupé qu'il était de ce qu'il allait dire à la marquise. Il y a de ce côté, derrière la rotonde du panorama, des quinconces arrangées comme un square, où on ne se rencontre guère que des enfants avec leurs bonnes et quelquefois des amoureux cherchant la solitude. Servon ne s'occupait pas de ces promeneurs, mais en avançant, il aperçut, assis côte à côte, sur un banc, deux messieurs qui attirèrent aussitôt son attention. Ils se touchaient presque et ils se tenaient courbés comme des gens qui causent à voix basse de bouche à oreille. Le plus grand des deux tenait à la main une canne avec le bout de laquelle il traçait distraitement des cercles sur le sable de l'allée, ce qui est un signe de préoccupation très caractérisé. Le vicomte ne voyait pas leur figure, mais sans pouvoir s'expliquer pourquoi, il eut l'impression qu'il les avait déjà rencontrés ailleurs et instinctivement il ralentit le pas pour se donner le temps de les observer. Bientôt, celui qui se servait de son bâton pour dessiner des figures de géométrie releva la tête et ôta son chapeau qui le gênait sans doute. Un feutre pointu comme on n'en porte guère pour se promener aux Champs-Élysées. Monsieur de Servan reconnut ce bizarre couvre-chef plus vite qu'il ne reconnut l'homme. Mais en l'examinant, il se souvint de l'avoir aperçu de loin l'avant-veille à la closerie des Lilas, où il dirigeait les évolutions d'une bande turbulente composée d'étudiants et d'étudiantes. Un peu surpris de retrouver si loin du balbulier cet élégant du quartier latin, Servon ne se serait pas arrêté à le regarder si l'autre causeur, en se redressant aussi, ne lui avait pas montré son visage. Celui-là, c'était son créancier de la partie chez la baronne. Il serait difficile de dire lequel des deux fut le plus étonné, du vicomte ou de Paul Cormier, qu'il prenait pour le marquis de Ganges. Seulement, le vicomte se réjouissait de la rencontre qui, tout au contraire, consternait Paul Cormier. Le vicomte ne pouvait rien souhaiter de mieux que de trouver tout près de l'avenue Montaigne le mari qu'il cherchait et qui n'oserait certainement pas refuser de le conduire chez sa femme, logée à deux pas de là. Paul, surpris en flagrant délit de causerie intime avec Jean de Mirande, par un monsieur du monde de Madame de Grange, par celui de tous auquel il tenait le plus à cacher son véritable nom, Paul aurait voulu rentrer sous terre. Il ne pouvait pas songer à fuir, le vicomte l'avait vu et lui souriait déjà. Encore moins pouvait-il espérer continuer à faire le marquis, Mirande étant présent. Mirande, au premier mot équivoque, aurait demandé des explications et culbuté tous ses mensonges. Mirande, qu'il avait eu tant de peine à retrouver et qu'il venait de décider à aller dire la vérité au juge d'instruction. Ce fut pourtant Mirande qui le tira d'embarras sans le vouloir et sans le savoir. Il n'avait pas remarqué M. de Servan à la closerie des Lilas. Et quand il se trouvait tout à coup face à face avec des gens qu'il ne connaissait pas, son premier mouvement était toujours de leur tourner le dos et de prendre le large. Il n'y manqua pas, en voyant que le vicomte allait aborder Paul. Il fila sans saluer ce gêneur, qui s'avisait de le déranger, et en criant à son ami « Bon, j'y vais puisque tu le veux, va m'attendre au café Soufflot, j'y serai dans 2 heures. » Paul se serait bien passé d'être interpellé de la sorte à portée des oreilles de M. de Servan, qui n'était plus qu'à 2 pas, mais le mal était fait, et il ne lui restait qu'à tâcher de pallier le fâcheux effet de cette étrange invitation. Un marquis avait pu se montrer un soir à la closerie des Lilas, mais qu'il se montrât en plein jour au café Soufflot, c'était invraisemblable. Et pour comble de malchance, Mirande venait de le tutoyer à haute et intelligible voix. Le pauvre Paul regrettait amèrement d'avoir accepté le rendez-vous que ce grand fou de Jean lui avait donné. Jean, qu'il avait tant cherché la veille au quartier latin, Jean s'était laissé enlever par une ancienne maîtresse qui était venu le réveiller et qui l'avait emmené rue Jean Goujon, où elle possédait un joli petit hôtel. Il l'avait connue figurante au théâtre de Cluny. Elle était passée grande cocotte, et elle tenait à lui montrer les splendeurs de sa nouvelle installation. Il n'avait pas refusé de l'accompagner chez elle, et il s'y était oublié pendant 24 heures. Pris du remords d'avoir oublié Paul Cormier dans un moment si critique, il lui avait écrit pour lui expliquer son cas et pour le prier de venir le rejoindre aux Champs-Élysées, derrière la rotonde du Panorama. Et Paul était venu. Depuis 1 heure, il le prêchait pour qu'il allât se déclarer, mais il n'avait pas encore pu lui décider quand l'apparition du vicomte avait coupé tout au tête-à-tête. Qu'il allât ou non au palais de justice, comme il venait de l'annoncer, Mirande était parti. Il s'agissait maintenant pour Paul de se préparer à répondre aux questions que M. de Servan n'allait pas manquer de lui adresser. Et, payant d'audace, Paul n'attendit pas que M. de Servan l'abordât. Il se leva, il vint à lui, et il cherchait une phrase polie pour entamer l'entretien, lorsque le vicomte s'écria gaiement « Enfin, je tiens mon créancier !» Paul était si troublé qu'il ne se souvenait plus des 8 000 francs gagnés chez la baronne, et comme il avait l'air de ne pas comprendre, « C'est pas ma faute si je suis encore votre débiteur, » reprit M. de Servan. « J'ai envoyé chez vous hier, vous étiez sorti. Personne n'a voulu de mon argent, et mon valet de chambre a dû me le rapporter. J'allais de ce pas avenue Montaigne, mais puisque j'ai la chance de vous rencontrer, permettez que je m'acquitte. » Paul hésita un instant à prendre les billets de 1 000 que le vicomte lui présentait. Il se faisait presque scrupule de les recevoir. Le vicomte croyait les devoir au marquis de Ganges, et il semblait à Paul qu'il n'avait pas le droit d'y toucher. Il s'y résigna pourtant, car il ne pouvait pas les refuser, à moins d'avouer tout, sans que Madame de Ganges l'y eût autorisé. Encore, Monsieur de Servan, en parfait gentleman, aurait-il insisté pour qu'il les acceptât, et Paul aurait dû en passer par là. « Maintenant que me voilà en règle vis-à-vis de vous, » reprit le vicomte, « il faut que je m'excuse de vous avoir interrompu. Vous étiez en conférence avec un jeune homme qui m'a semblé reconnaître. N'était-il pas dimanche soir à ce bal où mes amis et moi nous vous avons rencontrés ?»« Oh, peut-être bien, » balbutia Paul. « Il y va très souvent. Il fait son droit à Paris. » Mais il est du même pays que moi, et je connais beaucoup sa famille. Ah, c'est ce que je pensais, il est tout naturel qu'il vous tutoie. Il a été mon camarade de collège. Et comme la figure de Servan exprimait un certain étonnement, Paul s'empressa d'ajouter « Je me suis marié très jeune. » « Je suis sûr que vous n'avez jamais regretté de n'être pas resté garçon, » dit poliment le vicomte. « Puis-je vous demander des nouvelles de Madame de Ganges ?» Paul fit un effort pour répondre. « Oh, elle va très bien, je vous remercie. » Quand il était obligé de parler d'elle comme s'il eût été son mari, les mots lui restaient dans la gorge. Je ne vous cacherai pas qu'en allant vous voir, j'espérais la trouver chez elle, et si, comme je le suppose, vous rentrez à l'hôtel. Au contraire, j'en sors, dit vivement Cormier. Il mentait, car il se proposait de courir à l'avenue Montaigne dès qu'il aurait fini avec Mirande, et il y aurait couru si le vicomte n'était pas survenu. Il fallait bien maintenant renvoyer une meilleure occasion cette visite urgente, car il voulait éviter à tout prix d'accompagner M. de Servan chez la marquise. Et de peur que M. de Servan n'eût l'idée d'y aller sans lui, Paul s'empressa d'ajouter oh, « Madame de Ganges est sortie aussi. Elle doit dîner en ville et je dois aller la rejoindre. Je suis même déjà en retard. » « Oh, alors, je me reprocherai de vous retenir. J'aurai l'honneur de vous revoir très prochainement. Dès que Madame de Ganges aura choisi un jour de réception, et dans tous les cas, dimanche, j'espère, chez Madame d'Ozulé. Je l'espère aussi, mais je compte même que vous voudrez bien y être des nôtres au club dont nous faisons partie, Carole, Baffet et moi. » Je vous ai l'autre soir présenté ces messieurs. Ils souhaitent vivement de n'en pas rester là, et je tiens beaucoup à vous présenter au cercle où nous pourrons nous rencontrer tous les jours. » Si le vicomte avait eu l'intention de mettre Paul Cormier à la torture, il n'aurait pas parlé autrement. Chaque mot qu'il disait équivalait à un coup d'épingle, et l'offre obligeante de son parrainage au club mettait le comble au douloureux embarras du faux marquis de Ganges. Et le pauvre Paul ne pensait qu'à se dérober le plus tôt possible au supplice que M. de Servan lui infligeait avec ou sans intention. Je remercie beaucoup ces messieurs de leur bonne volonté, dit-il précipitamment, et je vous suis très obligé. Mais je ne sais pas encore si je me fixerai à Paris. Quand j'aurai l'honneur de vous revoir, nous parlerons de ce projet, mais en ce moment... Vous êtes pressé, je le sais, cher monsieur, je ne vous retiens plus. Ah, encore un mot pourtant. Vous avez un intendant qui exécute trop bien les consignes qu'on lui donne. Hier, vous lui aviez dit de ne recevoir personne. Non, pas moi, Madame de Grange, sans doute. Eh bien, il a exécuté l'ordre, mais il y a ajouté une explication de son cru. Il a déclaré à mon valet de chambre que vous étiez encore en voyage. Monsieur n'y est pas. C'est à lui qu'un domestique répond cela quand son maître tient à fermer sa porte, mais répondre « Monsieur est en voyage ». Quand tout le monde sait que monsieur vient d'arriver à Paris, c'est maladroit. Oh, je vous permets de vous signaler le fait pour que vous laviez la tête à ce serviteur trop zélé. Paul le connaissait depuis 24 heures, le fait, puisque la veille, il était chez la marquise au moment où le valet de chambre s'était présenté pour remettre une lettre. Le vicomte ne lui apprenait donc rien de nouveau, mais Paul ne pouvait plus espérer que la situation se prolongerait. Elle était trop tendue, et le moindre incident ferait éclater la vérité. Et il n'en était que plus pressé de fuir M. de Servon, qui d'explications en explications aurait fini par la découvrir. Tout en causant, ces messieurs s'étaient avancés sous les arbres jusqu'au bord de l'avenue d'Antin qu'il faut traverser pour arriver à l'avenue Montaigne. Un fiacre passait au pas. Paul fit signe au cocher d'arrêter et dit vivement à M. de Servon « Excusez-moi, monsieur, je suis si en retard que vous me permettrez de vous quitter. Merci du bon avis que vous venez de me donner et au revoir. » Il sauta dans la voiture qui fila aussitôt vers le quai. Ce brusque départ ressemblait tant à une fuite que le vicomte en demeura stupéfait. Il lui était déjà venu à l'esprit qu'il y avait un mystère dans la vie de ce noble ménage. Oh, maintenant, il n'en doutait plus, et il se promettait de manœuvrer en conséquence. Mais de quelle espèce était ce mystère? Mais quel secret cachait les allures bizarres du marquis? Peu importait à Servon, qui n'avait pas d'autre but que de s'insinuer chez la marquise et de tâcher de s'y implanter. Mais avant d'essayer, il tenait à être mieux renseigné et il ne savait comment s'y prendre. Devait-il se présenter tout seul chez Madame de Ganges, sous un prétexte qui restait à trouver, ou bien essayer de faire parler la baronne d'Ozulé? Elle lui voulait du bien, cette baronne, et elle devait savoir beaucoup de choses. D'autre part, l'hôtel de la marquise était à deux pas, et le vicomte soupçonnait M. de Ganges d'avoir menti en disant que sa femme dînait en ville et qu'il allait la rejoindre. Si elle était restée chez elle, l'occasion était tentante pour risquer la démarche. Toute la question était de savoir si elle consentirait à le recevoir. Et si elle le recevait, il serait bien mener sa barque de façon à s'ancrer dans la maison. Il fallait se décider à courir cette aventure lorsqu'il avisa sur le trottoir de l'autre côté de l'avenue un homme qui semblait hésiter à venir à lui. Servon aurait pu l'apercevoir plus tôt, car il y avait bien 2 minutes qu'il avait débouché de l'avenue Montaigne juste au moment où Paul Cormier montait en voiture. Cet homme n'avait rien qui pût attirer l'attention, mais il regardait le vicomte avec tant de persistance que le vicomte le regarda aussi et le reconnut. C'était l'individu qui, une heure auparavant, s'était arrêté sous le balcon du club et que Servan avait signalé à ses amis. C'était l'ancien garçon de jeu du cercle des Moucherons, renvoyé pour cause de suspicion légitime et regretté des pontes qui l'obligeaient parfois à des taux ultra-usuraires. Oh, il ne paraissait pas qu'il eût prospéré depuis qu'il avait changé d'état. Il avait le teint hâve d'un homme qui a souffert, et ses vêtements n'étaient pas neufs. Mais il n'en était pas montré la corde, et à la rigueur, un gentleman pouvait sans se trop compromettre lui parler dans la rue. La veille encore, Servon, s'il l'eût rencontré, aurait très probablement fait semblant de ne pas le voir, mais dans les dispositions d'esprit où était en ce moment le vicomte, il n'en allait plus de même. Il y a des services qu'on ne peut demander qu'à un déclassé, et Servon se trouvait justement dans le cas d'avoir besoin d'un moins scrupuleux que soi. Il ne fit pas la moitié du chemin, mais il attendit l'homme qui s'était décidé à s'approcher et qui lui dit, en soulevant son chapeau sans l'ôter, le salut d'un homme déchu qui ne sait pas comment on prendra sa politesse, « Je vois que monsieur le vicomte veut bien me reconnaître. Monsieur le vicomte est bien bon. Ben, je vous reconnais d'autant mieux que je vous ai déjà vu passer, tout haut sur le boulevard, répondit Servon. Monsieur le vicomte était au club avec ses amis. Monsieur le comte de Carol, monsieur le capitaine de Baffé, ces messieurs se souviennent de moi quand j'étais au Moucheron. Oh, c'était le bon temps. Oui, on vous a mis à pied, je crois. Sous prétexte que j'avais introduit au cercle des cartes marquées. Il aurait tenu qu'à moi de me justifier. Mais il aurait fallu nommer le vrai coupable, et j'ai mieux aimé perdre ma place que de dénoncer un gentilhomme. La preuve que je n'étais pas coupable, c'est qu'on ne m'a pas poursuivi. Comment vivez-vous maintenant ? Oh, je vis mal. Vous aviez pourtant, je suppose, amassé un capital. Serron, c'est vrai. Je l'ai laissé à Monte-Carlo. Vous êtes joueur, vous ? Ah, parbleu, c'est trop fort. Après avoir vu où le jeu amenait tant de gens qui vous empruntaient de l'argent. La passion ne résonne pas, c'est ma passion, le jeu. Mais j'en suis bien revenu, et maintenant je cherche à faire des affaires. Des affaires de quel genre ? Pas de préférence. Cependant, si je pouvais monter une agence de renseignement, je crois que je ferais ma fortune. Recherche dans l'intérêt des familles, surveillance discrète. Ah, je comprends, oui. Vous voudriez faire de la police au service des particuliers. Ben, justement, je m'essaie déjà. Et si je pouvais être utile à monsieur le vicomte. De ceci, devant garçon de jeu au vicomte de Servon, la profession était impertinente. Et le gentilhomme auquel ce drôle osait l'affaire eut sur les lèvres une verte réplique. Mais si le premier mouvement est le bon, comme on le prétend, il arrive souvent que le second ne vaut pas le premier. Servon, indigné tout d'abord, se dit très vite que cette ouverture n'était pas à dédaigner. Il avait à cœur de savoir à quoi s'en tenir sur les époux de Ganges. Qui veut la fin veut les moyens, et ce n'était pas le cas de se montrer difficile sur le choix de l'agent qui se chargerait de le renseigner. On ne fait pas la cuisine avec des grands blancs, et pour les basses besognes, on n'emploie pas de gentlemen. Vous essayez, dites-vous, demanda Servon. Mon Dieu, oui, répondit modestement Brunachon. Quand on a été 7 ans employé dans un grand cercle, on connaît tout Paris, le Paris mondain, et on sait beaucoup de choses. Depuis que je cherche à travailler dans la partie des rendements, j'en ai déjà ramassé pas mal et j'ai fait quelques nouvelles connaissances. S'il plaisait un jour ou l'autre à monsieur le vicomte de mettre mes talents à l'épreuve, je me flatte que monsieur le vicomte serait satisfait de moi. Alors, pour le moment, vous faites de la police en amateur. Mais pour me faire la main, c'est à peu près la même chose. Et vous vous exercez sur le premier venu? Oui, quand ça se trouve. Et puis j'ai gardé des habits par mes anciens camarades. Ils me renseignent à l'occasion, et je n'oublie jamais rien. J'ai une mémoire excellente. Vous avez aussi de bons yeux pour m'avoir reconnu au balcon. Oh, je reconnaîtrai de beaucoup plus loin, monsieur le vicomte, dit respectueusement Brunachon. Monsieur le vicomte ne ressemble pas à tout le monde. Alors, je dois être facile à... Comment dites-vous cela? À filer, je crois. Oui, filer, c'est bien le mot technique. Ce terme et le langage correct de l'ancien croupier auraient bien étonné Bardin père et fils, qu'il avait entendu la veille dans le cabinet du juge s'exprimer comme un rôdeur de barrière. Il ne connaissait pas le personnage. Brunachon parlait argot quand il lui convenait de le parler, mais il savait aussi à l'occasion prendre le ton d'un homme bien élevé. Est-ce que vous venez de me filer, moi? Lui demanda tout à coup monsieur de Servon. Oh, monsieur, je ne me serais pas permis. Pourtant, ça m'en a tout l'air. Je vous ai vu arrêter tantôt sous le balcon du club, et je vous retrouve 1 heure après dans ce coin des Champs-Élysées. Oh, j'y suis arrivé bien avant, monsieur le vicomte, et j'y suis venu pour une affaire dont je commence à m'occuper. Si je viens de rencontrer monsieur le vicomte, c'est tout à fait par hasard. Je sortais de l'avenue Montaigne quand je l'ai aperçu. Monsieur le vicomte a dû voir que je n'osais pas l'aborder, et d'ailleurs, si je m'étais permis de le suivre, j'aurais eu soin de ne pas me montrer. Ah, alors vous cherchez quelqu'un, avenue Montaigne? Je cherchais des informations. J'étais venu en reconnaissance, comme à la guerre, explorer le terrain et surveiller les mouvements de l'ennemi. J'ai perdu mes peines. Tout cela n'était pas clair, et ses réponses entortillées ne faisaient qu'aiguillonner la curiosité de monsieur Servon, qui lui aussi avait des renseignements à prendre, et qui songeait à charger Brunachon de les prendre pour lui. « Vous qui prétendez connaître tant de gens, lui demanda-t-il tout à coup, connaissez-vous un certain marquis de Ganges ?»« Oh, de vue, oui, parfaitement, répondit Brunachon, déjà sur ses gardes. Et où l'avez-vous vu et quand? À Monte-Carlo, cet hiver. Oh, je le croyais en Turquie. Oh, je ne sais pas s'il y est allé, mais je sais qu'il était encore à Nice il y a 8 jours. Mais depuis, il est rentré à Paris. C'est possible. Sa femme y habite tout près d'ici, dans un très bel hôtel qui lui appartient. On disait là-bas que le marquis ne vivait pas avec elle. Ils ont pu se raccommoder, mais j'en doute. Et pourquoi en doutez-vous? Oh, puisque monsieur le vicomte me fait l'honneur de m'interroger, je dois dire à monsieur le vicomte que cette dame a un amant. Ce n'est pas une raison pour qu'elle ne se remette pas avec son mari. Enfin, vous persistez à affirmer que si vous rencontriez le marquis de Ganges, vous le reconnaîtriez. À l'instant même. Eh bien, vous vous vantez, car vous venez de le voir. Où donc? Je causais avec lui quand vous êtes arrivé. Quoi, ce jeune homme qui est monté en voiture? Précisément, ce jeune homme, c'est Monsieur de Ganges, que vous prétendez connaître. Ça, le marquis? S'écria Brunach. Oh, mais non, il lui ressemble même pas. Et le marquis, au moins, 50 plus. Ah, il faut donc qu'il y ait deux marquis de Ganges, car celui que vous venez de voir porte ce nom et ce titre, et il va dans le monde avec la marquise. Je les y ai rencontrés ensemble. Brunachon eut un hochement de tête qui devait signifier « Tout s'explique », mais il ne dit mot. Il n'était donc pas encore décidé à mettre le vicomte dans son jeu. Brunachon, après avoir manqué sa première tentative de chantage, en préparait une autre depuis qu'il était sorti du cabinet de M. Bardin. Il savait que Paul Cormier n'avait pas été arrêté et il commençait à prévoir que l'affaire du boulevard Jourdan n'aurait pas de suite grave. Un duel n'est pas un assassinat. D'ailleurs, Paul Cormier, après avoir comparu devant le juge d'instruction, ne redoutait plus d'être dénoncé. Brunachon avait donc changé ses batteries. C'était maintenant la marquise de Ganges qu'il espérait faire chanter. Il y avait songé dès le premier jour, car comme l'avait soupçonné Paul, il s'était caché dans un fiacre pour le suivre, depuis la rue Gay-Lussac jusqu'à l'avenue Montaigne. Il savait chez qui Paul était allé. Il l'avait su en faisant causer les marchands du voisinage, tous fournisseurs de l'hôtel. Et il s'était promis d'exploiter Madame de Ganges aussitôt qu'il serait complètement renseigné sur la nature des relations que cette grande dame entretenait avec un étudiant. Il était revenu le lendemain aux informations. Il en arrivait et il s'en était fallu de peu qu'il surprit, causant avec Paul Cormier, Jean de Mirande, qu'il aurait pu exploiter aussi. Il n'avait fait qu'entrevoir Paul qui ne l'avait pas vu, mais M. de Servon venait de lui apprendre tout ce qu'il ne savait pas, hors une seule chose que Servon ignorait lui-même puisqu'il ne connaissait pas l'histoire du duel, le nom de l'homme que Mirande avait tué. Brunachon ne mentait pas en disant qu'il connaissait le marquis de Ganges pour l'avoir rencontré aux tables de jeu de Monte-Carlo. Et Brunachon n'avait pas menti non plus en disant au juge d'instruction qu'il ne s'était réveillé qu'au moment où le duel sur le bastion venait de finir. Il avait vu d'en haut un mort couché sur l'herbe, la face contre terre. Il ne s'était pas douté que ce mort était le marquis, et il ne s'en doutait pas encore. « Eh bien, lui dit M. de Servon en haussant les épaules, vous voyez qu'il vous arrive de vous tromper, tout comme un autre. »« Ne me trompe pas, murmura l'ancien garçon de jeu. Ce monsieur se fait passer pour le marquis de Ganges, mais il ment. Alors, il est d'accord avec la marquise? Évidemment, puisqu'il l'accompagne dans le monde. C'est donc qu'il est son amant? Ben, je le supposais avant d'avoir entendu monsieur le vicomte, maintenant, je n'en doute plus. Bon, mais qui est-il? Ah, voilà. Vous devez le savoir. Si je le savais, monsieur le vicomte comprendra que je ne devrais pas le dire. En affaire, la discrétion est indispensable pour réussir. En affaire, comment? Ah oui, j'entends les affaires de l'agence que vous voulez monter, dit Servon avec une légère grimace de dégoût. Vous ferez commerce de renseignements et vous ne les donnez pas pour rien. Monsieur le vicomte devine tout. Eh bien, j'ai l'habitude de payer ce que j'achète. Faites votre prix. Oh, je m'en rapporterai toujours à la générosité de monsieur le vicomte. Et du reste, pour le moment, j'ai si peu de choses à lui vendre que ce n'est pas la peine de traiter. Le drôle disait « traiter » comme s'il se fût agi de signer une convention diplomatique. Si monsieur le vicomte avait intérêt à être renseigné sur ce faux marquis et sur ses rapports avec madame de Ganges, je me mettrais en campagne et je me ferais fort de lui procurer toutes les intentions dont il aurait besoin. Très bien, je vous rémunérerai largement. Le vicomte était déjà revenu de ses répugnances à recourir aux vils offices d'un espion. Alors, je puis marcher, une parole de monsieur le vicomte vaut de l'or. Brunachon changeait, comme on dit, son fusil d'épaule. Brunachon n'était pas homme à refuser les offres de monsieur de Servon, d'autant que, tout en le servant, il pourrait à l'occasion faire chanter la marquise. C'était même sur elle qu'il fondait ses plus grosses espérances de bénéfices. Le vicomte se lasserait vite d'acheter des renseignements, et Paul Cormier n'était pas en état de payer bien cher un silence dont il pourrait bientôt se passer. Mais la marquise était riche, et elle avait sa réputation à préserver. « Eh bien, le nom de cet homme ?» demanda M. de Servon. « Il s'appelle Paul Cormier. Il est étudiant, il fait son droit. »« Ah, je m'en doutais. Et où demeure-t-il »« Au quartier latin, rue Gay-Lussac, numéro 9. » Cela doit être vrai, murmura le vicomte. Mais comment, cet étudiant connaît-il la marquise de Ganges ? Voilà, monsieur le vicomte, ce que j'ignore absolument, mais je m'engage à le savoir d'ici à très peu de jours. Tout ce que je puis vous dire aujourd'hui, c'est que hier, il s'est fait conduire en voiture à la porte de l'hôtel de cette dame, avenue Montaigne, qu'elle l'a reçue et qu'il est resté plus d'une heure chez elle. Je pourrais faire le mystérieux et vous laisser croire que j'en sais beaucoup plus long, mais j'aime mieux vous dire la vérité. Et il la connaît de longue date, reprit Servon, qui suivait son idée. Dimanche, ils se sont présentés ensemble dans une maison où je me trouvais. On a annoncé monsieur le marquis et madame la marquise de Ganges. Et il a raconté, lui, qu'il était arrivé le matin d'un grand voyage. Il s'était entendu à l'avance, car elle ne l'a pas démenti. Donc, ils étaient d'accord. Ah, c'est évident. Il n'y a qu'une chose que je ne m'explique pas. C'est qu'ils aient pu croire que personne ne s'apercevrait de la substitution. Le vrai marquis n'aurait qu'à reparaître. Il reparaîtra certainement, il ne restera pas toute sa vie à Monte Carlo. À moins qu'il se soit entendu avec lui. Il y a des maris avec lesquels on peut entrer en accommodement. Et il n'a pas trop bonne réputation, ce marquis. On finirait toujours par savoir à Paris qu'il existe. Sa femme risquerait trop en mettant son amant à la place de son mari. Il doit y avoir autre chose. Ben, c'est ce que je me dis aussi, mais quoi ? Peut-être que le vrai marquis de Ganges est mort récemment à Monaco. Il est joueur. Il a bien pu se tuer. Et peut-être que sa femme le sait et qu'elle a imaginé de le remplacer parce qu'elle est bien sûre qu'il ne viendra pas réclamer. Oh, j'avais pas pensé à ça, murmura Brunachon, que cette idée parut frappée. Puis, se reprenant, « Mais non, non, si c'était brûlé la cervelle là-bas, les journaux l'auraient annoncé. Il faudrait donc supposer qu'il est mort incognito et que sa veuve espère qu'on ne saura jamais qu'il est mort. » Le vicomte réfléchissait et ne trouvait pas d'explication satisfaisante. Au fait, pourquoi pas? Dit entre ses dents Brunachon. Ah, je vois, reprit Servon, impatienté, que vous ne devinez pas mieux que moi. Quand vous aurez trouvé, vous me le ferez savoir. Mais notre entretien a assez duré, et comme toute peine mérite salaire. Il allait mettre la main à la poche quand Brunachon lui dit vivement. Pas encore, monsieur le vicomte, laissez-moi gagner mon argent. Pouvez-vous disposer d'une heure? Oui, mais pourquoi? Je viens d'avoir une idée, et si je me trompe pas, avant une heure, vous serez fixé sur le point principal. Le reste viendra ensuite très facilement. Oh, voilà bien les promesses. Que faut-il que je fasse pour arriver à ce résultat? Une course en voiture avec moi. J'aime mieux, oui, pas avec vous, dit le vicomte, qui ne tenait pas à se montrer dans les rues de Paris en compagnie de cet homme. C'était bien assez d'avoir causé avec lui dans un coin écarté. Bon, je comprends, dit cyniquement Brunachon. Il y a moyen de s'arranger. Je vais monter dans le premier sapin découvert qui va passer et vous monterez dans un autre. Vous direz à votre cocher de suivre le mien et d'arrêter quand il arrêtera. Chacun descendra de son côté et là où vous me verrez entrer, vous entrerez derrière moi, sans avoir l'air de me connaître. Oh, vous pouvez même, si vous le préférez, m'attendre à la porte. C'est bien compliqué ce que vous me proposez là, dit le vicomte, qui avait bonne envie d'envoyer au diable ce chercheur de pistes. Mais non, c'est tout simple au contraire, répondit Bonachon. Et monsieur le vicomte ne risquera pas de se compromettre, puisque je ne lui parlerai pas, c'est-à-dire je lui parlerai après, et dans un endroit où personne ne nous remarquera. Mais comment après? Après quoi? Après que j'aurai su ce que je vais savoir. Et ce sera pas long, une demi-heure de trajet en voiture, et même moins si nous tombons sur de bons cochers, 5 minutes de vérification, et je serai fixé. Je rejoindrai alors monsieur le vicomte et je lui ferai mon rapport. Dans la rue? Non, dans un square où on ne rencontre que des troupiers et des bandes d'enfants. Mais que de mystère! Vous pouvez bien me dire où vous voulez me conduire. Oh, monsieur le vicomte ne viendrait pas si je le lui disais. Alors, je refuse. Monsieur le vicomte aurait bien tort. Je lui rendrai compte tout de même. Je lui écrirai, mais nous perdrions du temps, et dans ces sortes d'affaires, il ne faut pas traîner. Tandis que si monsieur le vicomte veut bien venir, il saura tout de suite à quoi s'en tenir sur la véritable situation de cette dame. De la marquise de Ganges? Mais oui, monsieur, n'est-ce pas précisément le point sur lequel vous désirez être renseigné avant tout? Sans doute, mais eh bien, quand vous le saurez, vous me direz ce que j'aurai à faire pour vous servir et je le ferai. Brunachon parlait déjà comme s'il eût été chargé d'une mission par monsieur de Servon, qui hésitait encore à l'employer. Il y répugnait même, car il était d'un monde où on ne se commet pas volontiers avec des gens de cette sorte, mais d'autre part, il désirait tant éclaircir le mystère qui enveloppait la vie de madame de Ganges, qu'il devait finir par se décider à accepter la proposition de l'ignoble Brunachon. Que risquerait-il après tout? Rien que de faire en voiture une course inutile. C'était peu de choses en comparaison du résultat que l'espion lui promettait. Je me permettrai de faire observer à monsieur le vicomte qu'il est temps de partir, reprit cet homme. Si nous différions davantage, nous arriverions trop tard. Mais il ne disait toujours pas où il s'agissait d'arriver, Et Servon sentait bien qu'il ne le dirait pas. Mais peu importait au fond. Servon serait toujours libre de ne pas le suivre jusqu'au bout, s'il s'apercevait qu'on le menait là où il ne voulait pas aller. Peut-être même valait-il mieux qu'il l'ignorât, car si ce voyage devait avoir des suites fâcheuses pour quelqu'un, sa responsabilité serait moins engagée. Le hasard, oh, un hasard facile à prévoir, mit fin aux incertitudes du comte.